Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, l'heure de notre débat. Bienvenue si vous nous rejoignez le vendredi, c'est la Libre Antenne et vous avez souhaité revenir sur nos discussions de la semaine, notamment sur la venue à Bamako de 5 dirigeants africains, c'était hier. Conclusion, pas d'avancée sur la sortie de crise et un sommet de la CEDEAO convoqué pour lundi. Adama, bonjour, soyez le bienvenu, vous êtes à Bamako, Adama. Qu'est-ce que vous pensez de ce ballet diplomatique d'hier? Est-ce que les positions des uns et des autres semble toujours aussi figé, selon vous?
Oui, bonjour, Monsieur François. Oui, en fait, suite à cette rencontre, comme je le disais, en fait, ces rencontres avec les chefs d'État, je pense que c'est pas ça le bon processus pour moi pour une sortie de crise au Mali, en fait. Je pense que le problème du Mali, il faut que ça soit réglé par les Maliens eux-mêmes, que le Malien lui-même prend conscience que en fait nous n'avons pas la on n'a pas intérêt à laisser vraiment notre avenir rester comme ça, en fait, c'est-à-dire comment je vais dire ça.
Alors je suis d'accord avec Adama, ce que vous me dites, j'entends bien. Seulement la mobilisation du M5, ça fait déjà un mois et demi qu'elle dure et il n'y a pas d'avancée concrète. Alors qu'est-ce qui pourrait débloquer les discussions entre Maliens sans nécessiter l'intervention des voisins du pays qui craignent bien sûr une déstabilisation plus importante du Mali?
Je pense déjà que il faut que le Malien qui est silencieux, qui sont comme moi aujourd'hui, qu'on arrive à sortir de notre silence, en fait. Il faut qu'on sorte de notre silence aussi, parce que si un problème comme ça arrive, faut pas que le M5 aussi garde sa position en faisant comme s'ils étaient eux-mêmes, eux seulement le peuple. Je pense même que 80% du peuple malien n'est plus pour cette crise-là.
Oui, vous regrettez que le M5 fasse preuve de jusqu'au boutisme, soit si stricte dans ses prises de position.
Justement, en fait, je pense que c'est les interventions qui se font de l'extérieur, c'est ce qui empire la situation, en fait. Je pense que ce problème, il doit être réglé par les Maliens et pour les Maliens. Mais chaque fois, s'il y a des interventions de l'extérieur, je pense que le problème ne va faire qu'empirer.
Mmh. Voilà un peu. Merci Adama d'avoir participé. On va prendre un autre avis à Bamako. Aliou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous vouliez réagir après la venue oui. des chefs d'État ouest-africains à Bamako. Comment est-ce qu'on peut débloquer, selon vous, cette situation malienne?
Moi, au fait, il faut effectivement une analyse d'ensemble de la situation. Mais déjà, par rapport à la CEDEAO, je savais déjà que cette mission allait échouer parce qu'ils sont venus avec une dictée préparée au Mali. Ce que Goulot du Rappel a dit, ils n'ont pas eu plus d'avancée. Il ne faut pas, quand tu viens dans un pays, il faut prendre en compte les réalités socio-économiques du pays avant de s'aventurer dans les choses qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils ne pouvaient plus échouer. Qu'ils se rendent compte que quand tu prends juste un exemple, il a échoué sur tous les plans. Et regarde, par exemple, Alassane, ce qu'il a fait à Abidjan et Macky, c'est ce qu'il a fait au Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est pas que le problème électoral seulement. Il y a un problème de grogne sociale. Toute la société malienne souffre dans ces dérives étrangères. Celui qui dit que le M5 n'est pas les 80% des Maliens, je pense que je ne répondrai pas à ça aujourd'hui. Les 67% qui ont élu Ibeka disent qu'ils en ont marre. Qu'il accepte volontairement de céder le pouvoir de façon démocratique aussi. Il a eu mort d'homme. Un démocrate ne peut pas tuer. Il a oublié le 26 mars. Je pense que la solution aujourd'hui, c'est que Ibeka, il n'est plus crédible. Parce que même en termes de discussion, quand on discute avec un homme, il va te dire aujourd'hui que c'est blanc, demain il te dira que c'est noir. Je pense aujourd'hui, la solution, c'est son départ et faire une transition. Un point.
Voilà, merci Aliou. Vous, on a bien compris, vous souhaitez le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, même si ce n'est pas évidemment ce que dit la CEDEAO, qui a même fixé une ligne rouge sur le sujet. On verra lundi s'il y a peut-être des avancées au cours de ce sommet par visioconférence. De la politique en Côte d'Ivoire, on en parlait lundi dans l'émission. La plausible nouvelle candidature présidentielle d'Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. Zachary nous appelle d'Abidjan. Bonjour Zachary.
Oui, bonjour Raphaël.
Le RHDP a fait bloc cette semaine pour une candidature du chef de l'État après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Vous soutenez l'hypothèse d'un troisième mandat Ouattara?
Tout à fait. Moi, je soutiens un autre mandat du président Ouattara, oui.
Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas poursuivre avec sa promesse de passer la main et de respecter l'esprit de la Constitution?
Parce que les données ont changé. Les données ont changé. Vous n'êtes pas sans savoir que le candidat du RHDP, qui était le premier ministre Amadou Bon, est décédé. Partant de là, les données ont changé, comme je le dis. Et la politique étant une saine appréciation de la réalité du moment, aujourd'hui, le président Ouattara n'a pas le choix que de porter la couleur du RHDP à l'élection présidentielle. Parce que le RHDP n'a plus le temps de façonner, de créer un autre candidat qui puisse véritablement confronter le candidat du PDCI.
Ouais, mais Zakaria, est-ce que c'est pas un aveu d'échec pour le RHDP et pour le président Ouattara, après 10 ans de pouvoir, de ne pas être capable d'avoir d'autres personnalités susceptibles de candidater à la présidentielle?
Non, moi je ne ferai pas cette lecture. On peut pas parler d'échec du président Ouattara. Il y a un candidat qui était déjà prêt, à l'occurrence le premier ministre Amadou Bon, comme on l'a dit. Mais à 3 mois d'une élection, lorsque le candidat décède, je dis bien à 3 mois, les compétences ne manquent pas, comme on le dit au RDP. Je dis bien les compétences ne manquent pas. Mais comment préparer un candidat à 3 mois des échéances? C'est ça le problème. Alors que nous avons déjà un candidat bien connu, qui a son travail qui parle pour lui, à savoir le président Alassane Ouattara. Tout se bloque autour du président Ouattara.
Merci Zakaria d'avoir été en ligne. Vincent est également à Abidjan. Bonjour. Vincent, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous entends bien,
Vincent, vous avez entendu votre compatriote à l'instant?
Oui, je vous entends très bien.
D'accord. Est-ce que vous avez entendu Zakaria juste avant vous? Parce que je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui.
Je ne partage pas du tout le point de vue de Zakaria. Parce que j'estime que Zakaria dit que la politique, c'est l'appréciation du moment. Donc la Constitution ne peut pas être réservée, la lecture de la Constitution ne peut pas être réservée à l'appréciation du RHDP. La Constitution, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a voté cette Constitution, c'est le peuple ivoirien qui l'a adoptée. Et ce peuple, et cette Constitution dit, dans son article 83, que les textes, les anciens textes de la Constitution de 2000, qui n'ont pas été touchés même d'une seule virgule, et qui ont été reconduits dans la nouvelle Constitution, reste applicable. Et ce sont les juristes, le comité d'experts qui l'a expliqué même et une fois. Donc le président Alassane n'est pas éligible. Ce qui est en train de se passer est une véritable forfaiture. Donc on ne peut pas accepter que dans un pays, que le parti au pouvoir qui donc est en train de sortir et qui a malheureusement perdu son candidat, dise qu'on analyse la Constitution en leur faveur en violant tout ce texte-là parce qu'ils n'ont pas un candidat et présenté le président Alassane Ouattara.
Est-ce que vous craignez que cette décision du chef de l'État, peut-être de se représenter, va amener de l'instabilité en Côte d'Ivoire?
Non, plus que de l'instabilité, mais c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est, désolé de le dire, mais c'est de ne pas respecter le peuple ivoirien. On s'est donné une loi fondamentale nous-mêmes. Donc cette loi est au-dessus de tout, elle est au-dessus des intérêts politiques, elle est au-dessus des intérêts individuels, il faut la respecter. C'est une loi qu'on a votée, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et les cadres du RHDP, hier j'ai entendu un cadre du RHDP dire que le président Alassane doit se présenter parce que l'opposition n'a autre programme que de se venger. Mais qu'avez-vous fait pour que l'opposition ait un programme que de se venger? Ça c'est premièrement.
Vincent, je suis désolé, on est en train de vous perdre. Merci d'avoir pris le temps de participer à l'émission. On aura le temps de revenir sur cette campagne électorale en Côte d'Ivoire. Déjà, on a reçu des messages sur Facebook. Victor nous dit, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un parti politique comme le RHDP, après tout ce temps au pouvoir, soit incapable de se passer de son mentor? Et Mamoudou à Abidjan, lui, par WhatsApp, voulait nous dire que, bien au contraire, à son avis, il n'y avait pas de problème pour que Alassane Ouattara brigue un troisième mandat. On va aller à Khartoum parler d'un autre sujet. Mounir est en ligne avec nous. Bonjour Mounir.
Bonjour.
Merci de témoigner sur l'antenne de RFI ce matin. Vous êtes originaire de République centrafricaine. Vous l'avez quitté en 2014 en pleine crise dans votre pays pour gagner le Soudan. Et vous souhaitiez nous alerter sur votre situation actuelle et celle de nombreuses familles de réfugiés comme la vôtre. Racontez-nous.
Oui, présentement, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous, car Nous, les réfugiés, nous sommes en train de souffrir à Khartoum. Vu la situation et vu la condition de Khartoum, ça va pas. Je vous donne par exemple, nous, les Centrafricains, qu'ils ont déjà à Khartoum, nous sommes sans sécurité, sans éducation, sans santé, vous voyez, sans logement. Nous vivons à nous-mêmes. Et je me demande pourquoi HR nous a enregistrés comme des réfugiés. S'ils ont déjà, rien n'a été fait. Nos enfants ne sont pas scolarisés à l'école. Et vu les derniers événements et les situations du Soudan, vous voyez, le Soudan ne va pas bien présent actuellement. Et le pire encore avec le coronavirus, vous voyez.
Ouais, le Covid, la crise économique, c'est vrai que le Soudan a connu beaucoup de changements hein, depuis un an. Concrètement, Mounir, comment vous faites pour subsister au quotidien dans cette situation alors que vous l'avez dit, vous n'avez pas de papier et que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école?
Bon, voilà, nous sommes ici. On nous a donné que des papiers locaux ici au niveau du Soudan. Parce que voilà, nous on débrie seulement comme ça, on fait des petits boulots pour se débrouiller avec.
D'accord. Et je crois que vous espérez hein, que la communauté internationale, et en particulier la France, vous vienne en aide. C'est aussi pour ça que vous nous avez écrit.
Si, c'est par rapport à ça. Parce que nous vivons la même chose que nous vivons dans notre pays, la République centrafricaine. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont là. Et le pire encore, il y a certains de nos frères réfugiés qui sont là, qui ont passé plus de 50 ans qui sont là. On ne sait pas. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où nous n'avons pas l'avenir dans ce pays. Nos enfants, vous savez bien que nous venons d'un pays francophone. Or, le Soudan était un pays anglo-arabophone. Nos enfants ne peuvent pas étudier la langue arabe. Vous voyez, donc nous avons vraiment des problèmes. Nous passons des moments difficiles. Nous sommes sans sécurité, éducation, sans santé.
Mounir, vous êtes bloqué au Soudan. Vous ne pouvez pas retourner en Centrafrique ou aller vers un autre pays francophone, peut-être?
Si, voilà, nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas quelque chose qui va nous aider à sortir. Vu ce qui s'est passé chez nous, nous ne pouvons plus rentrer encore chez nous. Vous voyez, nos maisons se sont cassées. Nous avons tout perdu en République centrafricaine. Et vu jusqu'à actuel, rien n'a été fait. Le pays va mal.
Merci Mounir pour votre témoignage, centrafricain en ligne de Khartoum au Soudan. On a reçu beaucoup de commentaires cette semaine suite à l'annulation du Ballon d'Or 2020. Pas de récompense cette année pour les footballeurs, en tout cas pas la plus prestigieuse, ni les autres prix liés également à l'hebdomadaire français France Football qui a inventé le Ballon d'Or dans les années 50. Emmanuel, bonjour.
Bonjour à François Mazet, bonjour à tous les auditeurs et... un salut particulier à la chaleureuse équipe d'Appel sur l'actualité, qui mérite d'ailleurs une prime de la part de la direction du RFI.
Eh bien écoutez, on va relayer ça à la direction. Emmanuel, vous êtes à Yaoundé, vous êtes déçu de la décision hein, de France Football de ne pas remettre de Ballon d'Or en 2020.
Oui, depuis 1956, je pense que c'est la toute première fois que cela arrive. Si j'ai bonne mémoire, et donc je suis déçu parce que apparemment il me semble que l'équipe est restée dans le confinement intellectuel. On n'a pas voulu faire bouger les lignes, associer d'autres intelligences pour trouver d'autres idées. Je pense que l'annulation pose ce genre de problème et je pense que il faudrait à l'avenir, quel que soit ce que nous vivons, pouvoir donner ce ballon d'or parce que c'est une grande récompense que les footballeurs attendaient. Mmh. Je pense également que cette annulation prive Lionel Messi de son 7e ballon d'or.
Ah, vous êtes certain qu'il lui aurait été dévolu?
Ah, bien sûr, compte tenu de l'immensité de son talent.
Bah, l'immensité de son talent, oui, mais pour l'instant, il n'a rien gagné cette année. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un critère de choix primordial.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que à l'avenir, il faudrait peut-être associer d'autres intelligences, comme je l'ai dit, le public, trouver de nouveaux critères et qu'on ne reste pas donc dans ce confinement intellectuel ou idéologique qui nous prive donc de ce ballon d'or qui fait quand même bouger et le monde du foot.
Oui, c'est vrai que tous les ans, c'est un événement, hein, au mois de décembre, la remise de ce ballon d'or. Merci à vous, Emmanuel. Tommy est à Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, en revanche, hein, cette annulation du ballon d'or, c'était la seule solution possible?
Exactement, l'annulation du ballon d'or était la seule solution possible dans la mesure où les championnats et les grandes compétitions ont connu de véritables bouleversements, de véritables chamboulements. On a dû rafistoler pour arriver à la fin du championnat et le championnat de France n'a pas repris. Il fallait que tout le monde, notamment Kylian Mbappé, soit sur la même longueur d'onde afin de compétir devant les Messi, les Ronaldo et autres.
Oui,
on a vu que le Paris Saint-Germain est en forme et donc du coup, voilà.
Oui, il aurait été minoré, ce ballon d'or, s'il avait été remis, il n'aurait pas eu la même valeur que d'habitude.
Il aurait non seulement été minoré, mais il n'aurait pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce que certains championnats ont repris, donc ils ont commencé, ils se sont arrêtés et ils ont rafistolé pour arriver jusqu'à la fin. Or, d'autres se sont arrêtés depuis le mois de mars et puis n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer sur la fin du championnat et notamment d'engranger des points qui leur auraient permis d'avoir notamment le ballon d'or.
Ouais, malheureusement, Tommy, il y a des joueurs là qui ont peut-être perdu une occasion historique de le soulever, ce ballon d'or.
Il y a aussi des joueurs, notamment tels que Kylian Mbappé, qui auraient pu prétendre, mais bon, vu que son championnat a arrêté, il n'a pas eu le temps de s'exprimer jusqu'à la fin. Donc, de part et d'autre, ça fait mal à certains, c'est avantageux pour d'autres.
Voilà. Merci, Tommy. On a entendu ce que vous nous disiez. On est obligé d'avancer. Beaucoup d'auditeurs aujourd'hui dans cette libre antenne et on doit aller en RDC où nous attend Serge. Bonjour.
Bonjour, François.
Le procès en appel de Vital Kamerhe débute aujourd'hui à Kinshasa. En première instance, le directeur de cabinet du chef de l'État a écopé de 20 ans de prison pour détournement de fonds et corruption. Ce procès, vous estimez eh bien que la justice de votre pays a jusque-là bien fait son travail?
Oui, mais bien évidemment. En fait, le double degré des juridictions, c'est pour garantir la bonne administration de la justice. Donc, c'est logique qu'une personne qui estime que le droit n'a pas été bien dit en première instance, que cette personne recourt en deuxième instance.
Vous avez suivi ces audiences du procès. Ça n'a pas été une procédure bâclée ou un procès politique, comme le disent certains, selon vous?
Non, pas du tout. Tout le monde a suivi. En fait, ceux qui parlent de procès politique, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que M. Vital Kamerhe n'est pas poursuivi pour une infraction à caractère politique qui serait par exemple outrage au chef de l'État ou viol sur une quelconque personne imaginaire et tout ça. Non, pas du tout. M. Kamerhe est poursuivi pour des infractions dont il a assumé une responsabilité quelque part à un moment donné. C'est normal maintenant qu'on lui demande du compte par rapport aux responsabilités qu'il a assumées.
Ouais, et donc, pour vous, en matière de lutte contre la corruption et les malversations dans votre pays, c'est une vraie avancée ce qui se passe en ce moment?
C'est une vraie avancée ce qui se passe en ce moment parce que c'est la justice qui doit finalement réguler tout ce bon fonctionnement de l'État parce que la corruption c'est un fléau. La corruption empêche tout développement, surtout de notre pays en ce moment. On a besoin de moins en moins de corruption pour avancer.
Merci Serge d'avoir été en ligne. On a encore une minute pour écouter Batiston qui est à Bukavu dans l'est de la RDC, le sud Kivu. Batiston, je vous laisse vous entendre très rapidement parce que justement vous n'êtes pas d'accord avec Serge sur ce procès Kamerhe. Pour vous, il y a eu beaucoup de témoignages mais pas beaucoup de preuves matérielles.
Oui, François, non.
Ah, Batiston, on vous a perdu, je suis désolé, on vous entend pas. Vous estimiez que justement ce procès n'avait pas été suffisamment équitable envers Vital Kamerhe. On verra en tout cas ce qui se dit au cours du procès en appel qui débute aujourd'hui. On a reçu d'autres messages pour parler d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans l'émission aujourd'hui. Mamadou en Guinée voulait parler des manifestations de la semaine dernière dispersées, manifestations du FNDC, tout en saluant la possibilité de rouvrir les mosquées à l'occasion de la Tabaski qui aura lieu le week-end prochain. Et puis Fiacre voulait nous parler également du processus électoral en République centrafricaine, un sujet sur lequel bien sûr on aura l'occasion de revenir longuement dans les prochaines semaines. Merci à tous, bonne semaine. Lundi c'est Nathalie Amar qui vous accompagnera pour Appel sur l'actualité.